mi-juin, Montpellier accueillait le Forum français pour la sécurité urbaine intitulé « Papa, maman, le maire et moi ». Ce forum rassemblait élus chargés de missions prévention, sécurité, médiation, ainsi que des professionnels de la jeunesse. Au programme des discussions, le rôle des maires en matière de prévention de la délinquance des mineurs. En clair, le maire veille à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Il peut donc intervenir auprès de délinquants mineurs. En revanche, il n'a pas de pouvoir judiciaire et ne peut donc pas les sanctionner. Il agit en amont pour éviter la multiplication des faits de délinquance dans sa commune. Charles Gauthier est sénateur-maire de Saint-Herblain en Loire-Atlantique. Il est également le président du Forum français pour la sécurité urbaine. Forum qui a organisé cette rencontre.
Alors, le Forum français est donc une association de collectivités français, parce qu'en fait, il y a le Forum européen pour les grandes agglomérations, les grandes capitales européennes, etc. Et donc, le Forum français, c'est l'aile française de cet ensemble. Ça fait à peu près 25 ans, j'arrondis, hein, 25 ans que ça existe. Alors, on est 120 collectivités. Au départ, c'était surtout des villes, quoi, des mairies. Et puis, vous savez que dans les changements de la politique locale, maintenant, il y a beaucoup de communautés urbaines, communautés d'agglo, communautés de communes, etc. Et beaucoup de compétences ont été transférées à ces communautés. Alors, nous avons à la fois des communes et des communautés. Et puis, les conseils généraux ont leur mot à dire aussi, parce que dans le domaine de la prévention, il y a un certain nombre de compétences qui leur sont confiées. Donc, il y a aussi des départements. Bon, enfin, ce sont essentiellement des communes.
Il y avait tant de problèmes avec la délinquance pour créer ce forum ?
Des problèmes, oui, bien sûr qu'il y a des problèmes. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'à partir du moment où le maire est responsable de la tranquillité publique, je dirais, hein, même s'il n'a pas... On parle du pouvoir de police du maire, mais ce serait très, très long à expliquer que ce n'est pas le même mot, ce n'est pas la même signification. Hein, il y a autant de différences entre une police d'assurance et puis la police nationale. Donc voilà. Et donc le maire n'est pas le patron de la police, des effectifs de police et des commissariats qui sont mis sur les territoires de sa commune. Mais cependant, il est le patron moral, en gros, de cette tranquillité. Donc c'est à lui que se posent ces problèmes. Mais vous savez, dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, quand il se pose des problèmes, on s'arc-boute pour essayer de trouver des solutions, mais on découvre vite qu'on n'est pas les seuls, que les problèmes se posent aussi ailleurs. Et on ne va pas inventer une solution, surtout dans une république unifiée comme la nôtre, sur 36 000 territoires, puisqu'il y a 36 000 communes. Donc l'idée de mettre en commun les expériences des uns et des autres, les analyses que l'on peut faire, et même d'aller voir plus loin que l'Hexagone sur le reste européen, c'est une idée qui apporte beaucoup d'aide. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, on ne dit pas, aucune commune vient nous voir en disant « ben voilà, j'ai un problème, comment je dois le solutionner ?» Et on ne sait pas, hein, il faut aller l'analyser sur place, etc. Parce que c'est du sur-mesure, chaque chose.
La mission, c'est
de faire partager les expériences de tous.
Et c'est d'accompagner les élus pour développer les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance.
Les villes aident les villes, hein, on peut résumer ça comme ça. Les villes aident les villes, mais bon, ça existe dans d'autres domaines. Mais là, c'est dans le domaine de la sécurité et notamment de la prévention. Pourquoi ? Ben parce que la sécurité, c'est quand même un pouvoir régalien de l'État. Et la prévention, c'est ce qu'au niveau local est de prime abord. Hein. Donc le maire, il est essentiellement à ce niveau-là. Il met en place une politique de prévention. Elle réussit, c'est très bien. Ne réussit pas, il y a des dérapages, etc. Le relais, c'est l'État. Espérer en tous les cas, même si justement on a beaucoup à dire en ce moment.
Pour aider les maires à mettre en place une politique de sécurité et de prévention de la délinquance des mineurs, l'État a créé en 2007 des conseils de droits et de devoirs des familles. Ce sont les CDDF. Ils sont obligatoires depuis 2011 pour les communes de plus de 50 000 habitants. Dominique Simon Perrano est chargé de mission au comité interministériel de la prévention de la délinquance.
Le CDDF, qui est en fait une instance consultative, une instance de concertation, qui fait partie des outils mis à la disposition du maire. Bon, d'une part, c'est le Conseil pour les droits et devoirs de famille. Le maire a cette possibilité, parmi différents outils, dans le cadre de la prévention de la délinquance et de la tranquillité publique, dont le CDDF, qui consiste notamment à éviter en fait que des mineurs soient en situation potentielle de danger, que des familles soient complètement démunies face à l'exercice de la parentalité. Donc il s'agit en fait pour le maire, moyennant des informations qu'il recueille très en amont auprès des partenaires de terrain, des informations qui peuvent provenir de la police, qui peuvent provenir de l'action sociale, qui peuvent provenir des associations, puisqu'il y a une multiplicité d'acteurs en fait impliqués dans ce champ social. Il y a les intervenants sociaux, il y a également tous ceux qui sont concernés par les problématiques de lutte contre la délinquance, certes, mais les problématiques sociales, les problématiques d'insertion, les problématiques de prévention, les problématiques également de santé. Tous ceux véritablement qui, à un moment donné, en fait, doivent veiller à l'épanouissement d'un mineur, quel qu'il soit, et éviter notamment qu'il se trouve dans une famille déstabilisé et qu'il risque de franchir le pas vers la délinquance, par exemple.
Donc, c'est des mineurs qui posent problème ?
C'est-à-dire là, dans le cadre effectivement du CDF, ces conseils pour les droits et devoirs des familles concernent effectivement des familles qui ont en charge des enfants mineurs. Donc il faut éviter très en amont, si on fait de la prévention, il faut éviter que les mineurs, par exemple, soient auteurs d'incivilités. Ce sont des infractions mineures aussi, mais quoi qu'il en soit, il faut éviter qu'ils aillent plus loin, que les infractions soient plus graves.
C'est responsabiliser les parents ?
Absolument, c'est-à-dire effectivement leur rappeler les devoirs, les droits concernant effectivement la parentalité. Mais, et j'ai insisté là-dessus, et on a eu d'ailleurs à ce sujet des expériences intéressantes qui nous ont été présentées, le CDDF n'est pas un tribunal. Le maire n'est pas là, il ne joue pas un rôle d'admonestation, il n'est pas là pour imposer une sanction. Il est là au contraire pour déminer le terrain, si j'ose dire, c'est-à-dire pour écouter la famille, dialoguer avec la famille, l'informer. Parfois ce sont des familles qui sont complètement démunies, qui ne sont même pas au courant de ce que font leurs enfants. Donc en même temps, ça leur permet de prendre conscience le CDF est là pour les aider, prendre des décisions qui sont graduées, des décisions qui sont adaptées à chaque situation. C'est vraiment au cas par cas. L'aide familiale, c'est suivi social ou alors éventuellement c'est faire rencontrer la famille par une conseillère familiale, c'est pourquoi pas voir avec elle si elle accepte bien sûr de s'inscrire dans des stages d'école de la parentalité. C'est vraiment aider les familles qui sont dans une situation de difficulté par rapport à leur exercice de l'autorité parentale.
Donc l'objectif, on le comprend bien, c'est de baisser le taux de délinquance.
Absolument.
C'est aussi recréer un lien social.
Tout à fait, puisque là, véritablement, tout est fondé sur des relations de confiance. Il faut dialoguer avec la famille, mais il faut également avoir des relations de confiance et des échanges d'informations avec les partenaires, les différents partenaires impliqués, les partenaires institutionnels, certes, mais pas uniquement.
Et pourquoi ce lien, il est cassé aujourd'hui ? Pourquoi il faut le recréer ?
Non, c'est pas qu'il est cassé, ce lien. C'est que parfois, effectivement, sur des cas bien particuliers, il y a des difficultés plus importantes. Mais il ne faut pas généraliser non plus, c'est quand même au cas par cas. Mais c'est vrai qu'on le voit dans certaines villes. Bon, à partir du moment où un enfant commence, par exemple, à multiplier les absences à l'école, c'est qu'il y a un problème. Ou il est dans une situation de souffrance, de mal-être, ou alors il y a une déstabilisation au sein de sa famille. Donc c'est ça, il faut éviter justement que ça perdure. C'est vraiment le volet prévention. Le volet prévention, qui est le premier niveau d'intervention du maire, et si véritablement, après ce premier volet d'intervention, les résultats ne sont pas probants, s'il y a des réticences de la part de la famille, on franchit une autre étape, et puis avec le Conseil général, on voit de quelle manière on peut toujours aider, soutenir les parents concernés, enfin les parents ou le parent concerné.
Vous l'aurez compris, les conseils de droits et de devoirs des familles sont préventifs. Il s'agit d'intervenir avant que le mineur ne bascule complètement dans la délinquance. Dès les premières fautes, les parents sont convoqués devant le maire et les membres du CDDF. Dominique Simon-Perrano.
Le maire reçoit des informations. Il a des sources différentes d'informations qu'il alerte en l'occurrence, soit sur les cas d'absentéisme d'un enfant, soit sur d'autres difficultés, soit sur une situation familiale marquée par une certaine déstabilisation et qui risque d'avoir des conséquences sur l'épanouissement de l'enfant, des actes d'incivilité, etc. Donc des faits mineurs, certes, mais dont il faut se méfier. Et surtout, je pense que le point d'alerte le plus important, c'est l'absentéisme. Bon, il y a une règle à ce sujet. À partir du moment où notamment 4 demi-journées dans un mois ne sont pas justifiées lors des absences, c'est vrai que là quand même il faut se poser des questions. À partir du moment où il n'y a aucun justificatif, que l'enfant traîne dans la rue, que les parents ne sont pas au courant, là véritablement il faut intervenir. Il faut intervenir en amont. Donc il a ses sources d'informations différentes qui proviennent des acteurs sociaux, qui proviennent aussi des associations, qui peuvent provenir aussi des PV de la police, qui peuvent également provenir de ses administrés. À partir de ces informations, donc en fait, hein, concrètement parlant, s'il considère qu'effectivement il y a urgence pour créer un CDDF, hein, donc il en fait part à son conseil municipal. Donc le CDDF, moyennant l'approbation du conseil municipal, est en fait créé à l'initiative du maire par délibération du conseil municipal. Et le conseil municipal, à partir de là, effectivement, s'il a accordé son approbation, voit avec le maire, décide quels seront les membres qui en feront partie. Donc la famille étant convoquée, donc, soit elle est reçue par le maire, soit elle est reçue mais par un comité restreint, parce qu'il ne s'agit pas non plus de recevoir une famille devant un comité pléthorique, hein, sinon c'est un tribunal et ce n'est pas du tout l'objet qui est recherché. Donc elle est reçue par un comité restreint, le CDF restreint, de façon justement à écouter la famille. La famille est écoutée, c'est vraiment du dialogue, hein. La famille doit être entendue. En même temps, les membres du CDDF, qui préalablement, de toute façon, ont été concertés par le maire pour vraiment recouper leurs informations, on peut poser des questions. On fait prendre conscience à la famille des difficultés, parce que parfois, effectivement, les familles ne le savent pas. Donc c'est une prise de conscience, c'est un dialogue, ce sont des échanges. Et à partir de là, effectivement, le maire peut proposer des solutions, entre guillemets, qui sont discutées par la famille. La famille les accepte. Si la famille accepte, effectivement, de bénéficier d'un suivi social, si la famille accepte de rencontrer une conseillère familiale, de bénéficier de la médiation familiale, de s'inscrire dans des écoles de parents... Dans ces cas-là, effectivement, ça signifie pour le maire qu'un suivi va démarrer et la famille entre dans ce cadre. Parfois, les familles sont un peu plus réticentes. Et quoi qu'il en soit, c'est un renfort vraiment de concertation.
Ce principe existe depuis 2007. Est-ce que déjà, on peut faire un petit retour? Est-ce que véritablement, ça a eu un impact sur la délinquance?
Globalement, c'est difficile à dire, mais parce que c'est vraiment lié. Parce qu'il y a aussi toute une évolution sociale qui entre en jeu. Là, j'en reviens toujours à ça, c'est vraiment au cas par cas. Incontestablement, dans des communes, des petites communes qui ont mis en place ce système d'emblée, bon, vraiment, il y a vraiment une connaissance, en plus, il y a un travail de proximité. Plus la proximité est là, plus les résultats également sont présents. Mais après, bon, si vous voulez, c'est une évolution sociale. Il y a une diminution de la délinquance, certes, mais il faut voir quels sont les bassins de délinquance concernés. Et puis, bon, de toute façon, c'est vraiment là, c'est très en amont. Parce qu'après, on franchit une autre étape qui est beaucoup plus la sanction.
Le fonctionnement des CDDF varie d'une commune à l'autre. C'est au maire de définir le règlement intérieur. Et c'est d'ailleurs lui qui préside ce conseil. Dans cette mission, il est aidé par un ou des représentants de l'État, y compris des représentants de l'éducation nationale.
Reçois l'amour de tes enfants qui veulent retrouver ton sein, qui viennent se connecter ensemble pour retrouver le grand un, qui ont conscience que nous sommes tout et qu'à la fois nous ne sommes rien, qu'on te doit tout, chère maman, déjà mère de nos anciens. Pardonne le monde et son ego, bien trop ingrat pour voir le bien. Louons ta gloire et ta splendeur pour préparer le jour prochain. Tu es la reine, la mère chérie, martyrisée par nos engins aux vibrations bien trop pure pour nos âmes de demi-humains. Reçois l'amour de tes enfants qui ont conscience et intuition, qui malgré les interférences n'ont pas oublié la mission. Chevalier dans la brume qui entend sonner le glas, levant un sabre de feu devant un paradis de glace. Pardonne-nous la division, Diablo a bien fait son travail. On a retrouvé ta chaleur sous leur béton et leur gravat. Siècle charnier, c'est le changement qui vient frapper à notre porte. Accueillons-le, le cœur léger pour passer à une autre époque. Oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama, oh Pachamama.
Retour à Montpellier où s'est tenu en juin le Forum français pour la sécurité urbaine intitulé « Papa, maman, le maire et moi ». Dans la première partie de l'émission, nous avons vu le rôle que joue le maire en matière de prévention de la délinquance des mineurs. Pour cela, depuis 2007, il peut mettre en place des CDDF, des conseils de droits et de devoirs des familles. Mais certaines communes n'ont pas attendu 2007 pour agir localement. Exemple à Tours avec Agnès Mestre, elle est adjointe au maire de la ville en charge de la sécurité et de la tranquillité publique.
Nous avons eu dans le quartier dit sensible de la ville de Tours, nous sommes une ville quand même qui est très tranquille. Nous avons un quartier sensible qui a été construit dans les années 60, qui est en centre-ville. Donc ce quartier-là s'appelle le quartier du Sanitas et c'est un quartier qui manquait peut-être de mixité, je dirais. Et nous avons eu beaucoup d'envahissements de halls à un certain moment. Et puisque nous avons une police municipale de jour comme de nuit, nous avons pu identifier que des jeunes faisaient des nuisances d'ordre physique et d'ordre sonore, qu'ils envahissaient les halls, les cages d'escalier, qu'il y avait des plaintes de nos résidents, etc. Donc c'est pour ça que nous avons tout de suite pris le problème à bras le corps avec les organismes, les bailleurs sociaux, l'OPAC, la Tour Angèle, etc. Et nous avons commencé immédiatement par travailler sur l'urbanisme. C'est-à-dire que l'on s'est dit, s'ils peuvent envahir, s'ils peuvent échapper aux forces de police, etc., il faut absolument qu'on joue sur le bâti pour pouvoir revoir la situation de ces entrées de hall, de ces transparences. Un exemple concret, en haut, tout en haut, il y avait des guetteurs. Donc alors, dès qu'on avait la police municipale ou la police nationale qui sont obligés d'arriver en uniforme, ils sifflaient dans l'escalier.
C'est détruire concrètement les halls d'immeubles là ?
Pas du tout. On les a reconstruits complètement, c'est-à-dire que l'on a réétudié. Donc vous avez des halls d'immeubles, au lieu d'être sur des grandes artères, ont été mis sur les arrières avec des petits jardins. Ils ont été sécurisés, les sas à vélo ont été déplacés. On avait aussi des problèmes par rapport aux ordures qui étaient régulièrement, les poubelles qui étaient régulièrement brûlées, etc. Donc on a sécurisé. Nous sommes en train de travailler avec Tour Plus sur les containers enterrés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de poubelles sur la ville de Tours de moins en moins. Donc tout est enterré et donc on ne peut plus mettre le feu puisqu'il n'y a pas d'oxygène.
Donc c'est l'urbanisme en fait qui a fait avancer les choses.
Exactement.
Qui est moins de délinquance peut-être.
Le premier point que l'on a pris à bras le corps, c'est de revoir complètement la conception de ce quartier dit sensible. On a offert des jardins, on a enlevé une barre qui était vraiment très très mal, qui était vraiment en difficulté de mixité et en difficulté pour les habitants. Les habitants avaient peur de rentrer chez eux. Tout simplement, y rentrer, les jeunes ou les moins jeunes faisaient du trafic, jouaient au poker. Enfin bon, par ce principe de changer vraiment l'habitat, on a réglé 90% du problème que l'on avait.
Et les 10 autres pourcents alors, comment ils ont été réglés ?
Les 10 autres pourcents ont été réglés par la police nationale et la police municipale en assurant quand même une présence quand même très régulière, aussi bien de jour que de nuit, par une identification des faiseurs de troubles, parce que c'est ce que je disais, en fait, vous avez 2-3 personnes qui peuvent mettre un quartier de 10 000 habitants à feu et à sang. En les identifiant, en traitant, je dirais, leur situation individuellement avec les services sociaux, avec les familles, etc., en 3 semaines, on a réglé le problème.
Vous parliez aussi des conseils de parentalité, je suppose que ça a joué aussi un rôle.
Le conseil de parentalité est une conséquence de cette situation de 2009.
Parce qu'il y a eu ces difficultés-là que vous avez créé ces conseils.
Voilà, parce que si vous voulez, on a été obligé d'agir auprès des familles. Donc l'élu de référence, qui était aussi conseiller général, a reçu la famille en disant, voilà, on a un problème avec votre enfant, etc. Ça s'est très très bien passé. Les parents ont pris conscience qu'il y avait un problème avec leur enfant et ils ont repris leur rôle de parents à ce moment-là. C'est pour ça que la situation s'est améliorée très très rapidement. Mais on s'est dit, il faut qu'on cadre. Il faut qu'on trouve une démarche et une méthodologie qui puisse servir à chaque fois que l'on aura un jeune en prédélinquance. Le but, c'est que les jeunes ne rentrent pas dans la délinquance. Et je suis vraiment persuadée que par la prévention et par en prenant la situation en amont, on a d'excellents résultats. Et que les parents ne sont pas toujours au courant de ce qu'il se passe réellement, de la situation de l'enfant, et qu'il faut les informer, et en plus il faut surtout leur redonner l'envie d'être parents et leur faire vraiment comprendre qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils ne sont pas coupables.
Concrètement, comment ça se passe, un conseil de parents ?
Alors un conseil de parents, c'est ce que je vous disais, le but c'est de les recevoir à peu de personnes, ils ne sont pas devant un tribunal, ils sont là pour qu'on leur expose un fait. Ils sont là pour nous dire, est-ce qu'ils sont au courant, est-ce qu'ils ne sont pas au courant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire vraiment sur le terrain. Je vais vous prendre un cas très très simple. J'ai une fille de 16 ans. Ma fille de 16 ans, je n'ai aucun problème avec elle. Quand il y a eu les grèves lycéennes, heureusement pour moi, elle n'est jamais allée dans les manifestations. Mais imaginez qu'elle soit prise avec 2-3 jeunes en train de faire le guignol, etc. Je vais être convoquée alors que ma fille ne sera allée qu'une seule fois sur une manifestation, elle sera fait tirer l'oreille. Si j'arrive, je ne peux pas être élue et la mère en même temps, mais imaginez que je sois convoquée par un élu et que je dise, excusez-moi, je ne savais pas que ma fille était dans la manifestation. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte qu'elle n'y soit plus jamais. Le problème est réglé. On ne va pas condamner les parents simplement parce qu'un enfant a pu faire un fait qui peut être mineur et que s'il est pris immédiatement et expliqué avec les parents, il n'y a pas de souci.
Donc le mineur n'a plus le droit de manifester ?
Le mineur, c'est un exemple. Je peux vous en prendre un autre. Mais je pense qu'un mineur, bon, il est peut-être mieux à l'école, il est peut-être mieux chez lui que dans une manifestation qui peut dériver non pas de son fait, mais par rapport à un groupuscule qui peut être là, etc., et se trouver entraîné dans une situation qu'il dépasse.
Ces conseils de parents, c'est un petit peu l'ancêtre des conseils de droits et devoirs des familles, c'est ça ?
Exactement. En fait, c'est pour ça qu'on a pu très très facilement créer notre CDDF, qui va être présenté au conseil municipal, hein, puisque c'est une obligation. Nous avons des relations mensuelles avec tous les acteurs, toutes les institutions, les transports, les bailleurs, l'éducation nationale, le conseil général, la police municipale, la police nationale, et nous échangeons. Et nous échangeons, je n'irai pas quartier par quartier, mais comme la ville de Tours est divisée en 4 parties, partie par partie, on étudie les faits. Dans telle, dans telle rue, il y a eu des problèmes, des voitures brûlées. Dans tel autre quartier, on s'est aperçu qu'il y avait un jeune qui avait été pris, il avait 12 ans, il était minuit, qu'est-ce qu'il faisait là ? Et tout de suite, on règle les problèmes.
Il n'y a plus de délinquance à Tours ?
Je dirais que la délinquance est tellement faible qu'on ne peut pas parler de délinquance.
Autre initiative lancée dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la métropole de Lille, la mise en place d'ateliers famille dans la commune d'Allouin, commune de 20 000 habitants. Jean-Luc Dereau, maire d'Allouin.
Donc les ateliers parents, c'est une initiative qu'on a prise et maintenant... Donc on est en 2011, il y a 13 ans, donc c'était en 98-99, c'est une volonté de mettre en place ces ateliers à partir d'un certain nombre de réalités qu'on avait pu connaître sur la ville, notamment de l'expérience commune sur les jeunesses difficiles. Donc ces ateliers parents, c'est à la fois une démarche mise en œuvre par une association, donc la CLCV locale, à qui on a confié cette dimension, mais surtout avec un comité de pilotage qui rassemble tous les partenaires qui ont la volonté de travailler sur la parentalité.
Donc ça veut dire qu'ensemble, tous ensemble, vous rencontrez les familles qui ont des difficultés ?
Non, donc les familles sont appelées à participer à un certain nombre de rencontres, suivant un calendrier Et il y a des animateurs, hein, deux animatrices qui sont là à mi-temps, donc prises en charge par un certain nombre de subventions et l'aide de la ville pour permettre justement l'émergence à la fois des questions et aussi la recherche de réponses communes, quoi. Donc c'est les fameux repères, donc avec des initiatives aussi sur la restitution pour faire venir d'autres parents. Le travail, c'est vraiment un travail, je dirais, de proximité, quoi. Donc il y a le bouche à oreille, il y a aussi des démarches en direction des parents qui vont à la PMI, des démarches en direction des parents lorsqu'ils s'intéressent à la vie des écoles, tout ça. Donc,
et quelles sont les difficultés que rencontrent ces parents-là?
C'est-à-dire que très vite, quand elles se mettent autour de la table pour discuter de leur vie, quoi, parce que c'est ce qu'on appelle un peu de la vie quotidienne. Donc c'est le rapport à l'argent, le rapport des jeunes avec Internet et Facebook, c'est le rapport des jeunes entre eux, c'est par rapport à la toxicomanie, c'est donc toutes ces questions-là qui sont des questions qui sont fortes, quoi. Moi, ce que je constate, hein, c'est qu'un certain nombre de parents qui participent à ces ateliers parents sont beaucoup plus actifs après dans la vie associative et dans la vie de la ville, quoi. Donc c'est vraiment une démarche aussi pour eux d'accomplissement et de la personnalité. Moi, j'ai été parent, donc je ne peux pas dire qu'on était exempt de difficultés rencontrées par rapport à l'évolution de nos enfants. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir trouver des lieux, parce que c'est ça quand même, hein, plutôt que de laisser seuls les parents entrer dans des états parfois de crise au niveau des familles, c'est de trouver des lieux permettant de dénouer ces crises. Ça veut dire de dire, mais bon, est-ce que je pose bien la question, est-ce que entrer en relation avec mon enfant, c'est quoi? Parce que bon, il y a toujours des stratégies pour réussir qui sont développées par les enfants et les jeunes. Donc comment percevoir ces stratégies et comment entrer dans les éléments de réponse? Donc on est dans une démarche tout à fait éducative, hein. Donc en même temps, on voit bien aussi que dans les quartiers qui sont des quartiers populaires, hein, parce que c'est quand même bien ce public-là qui est le plus présent au niveau des actions qui sont menées. Eh bien, il y a parfois d'autres questions qui sont des questions fortes, hein, sur l'approche par rapport à la toxicomanie, etc. Et donc là, c'est dans une démarche de prévention.
Alors, ça fait plus de 11 ans que ces ateliers existent. Quel retour vous en avez? Est-ce que vraiment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un petit peu moins de délinquance des jeunes dans votre ville?
Certainement qu'il y a moins de délinquance, puisque les chiffres sont toujours à la baisse, mais je me méfie toujours des chiffres qui viennent de l'État 4001 de la police, parce que c'est plus l'activité de la police qui est mesurée que la présence d'un délinquant sur la ville. Parce que ce que je constate, c'est que dans le quartier où j'habite, hein, le quartier du Colbrois, qui était un quartier très sensible, repéré comme étant un quartier très, très difficile dans la ville, bien ça s'est apaisé. Donc, ce qui prouve que quand on met les partenaires, hein, les bailleurs sociaux, la ville, les associations, etc., autour d'une table, qu'on est dans une politique dynamique d'offres de services, eh bien, il y a une tension qui baisse. En même temps, ça n'empêche pas que les difficultés, parfois, restent là et qu'il y a une sorte de noyau dur sur lequel il est quand même très difficile d'entrer pour faire en sorte que les choses bougent, quoi.
À Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, le maire Charles Gauthier n'a pas mis en place de CDDF, sa commune n'ayant pas 50 000 habitants. Mais si les conseils de droits et de devoirs des familles devenaient obligatoires pour toutes les communes, cela lui poserait problème sur un point, le non-respect de la confidentialité. Lorsqu'un maire reçoit une famille dans le cadre d'un CDDF, il a obligation de consigner la rencontre dans un registre. Charles Gauthier.
Le climat de confiance qui existe entre le citoyen et le maire n'est plus le même. Et c'est pour cela que dans le dispositif qui est proposé, il y a par exemple un registre. Ah bah oui, mais s'il y a un régier, ça veut dire que ça laisse des traces. Il y a un document sur lequel on va tracer les méfaits du tel jeune, la posture des parents, les initiatives qui ont été prises, etc.
Ça, c'est dangereux.
Et, bah, moi, je trouve, parce que nous ne sommes plus dans le domaine de la confidentialité et de la confiance, tout simplement, entre une puissance morale, qui est le maire, et puis une famille qui est un peu en désarroi, en crise ou en difficulté.
C'est des informations qui pourraient être réutilisées.
Ça pourrait être exploité, et si ça peut, si le citoyen pense que ça peut l'être, à ce moment-là, le rapport est faussé. Parce qu'il rentre à ce moment-là dans une procédure de la chaîne pénale.
C'est ce point-là, ce registre uniquement, qui pose problème
c'est
au maire.
C'est le problème central. Parce que sinon, les maires ont toujours collaboré, surtout. Mais si on peut fausser le rapport entre le citoyen et le maire, c'est plus la même chose. Le maire n'est pas le shérif. Nous ne sommes pas à la tête de la police. Même s'il y a une police municipale. Mais justement, entre police municipale et police nationale, ce n'est pas les mêmes fonctions. La police municipale doit faire exécuter les arrêtés du maire. La police nationale, elle doit faire respecter la loi de la République. Nous ne sommes pas dans le même degré. Et donc, ce n'est pas la même chose. Et si le citoyen nous sent comme son représentant dans la sphère publique, c'est une chose. Si le citoyen nous sent comme la première instance de répression, voire même de jugement, il nous regarde différemment.
Il y a beaucoup de communes qui ont refusé de mettre en place, du coup, les CDDF.
Je dirais à l'envers, il y a très peu de communes qui en ont mis en place.
Depuis 2007.
Ah oui, très peu. Oui. Donc maintenant, on essaye d'humaniser un peu la présentation. Et vous avez vu la porte-parole ce matin que nous faisons venir et qui me présente, l'a fait d'une façon extrêmement brillante, sympathique et enthousiaste. Hein. Bon. Mais vous avez vu les réactions. Bon, les gens disent « oui, vous nous dites ça, mais nous, on sait que ». Bon. Donc, voilà. Mais bon, derrière tout ça, qu'importe la querelle entre éventuellement l'Association des maires de France et puis le ministère de l'Intérieur. Ce qui est important, c'est le service qu'on peut apporter à une population qui est en souffrance quand même, hein, qui est en difficulté. Et donc, toutes les idées sont bonnes à creuser. Après, il faut prendre des garanties autour des idées, c'est tout.
Vous voulez rencontrer ces populations dans votre commune qui ont des difficultés ? Il y en a de plus en plus de familles qui ont des difficultés ?
Oui, mais c'est pour ça que, par exemple, l'histoire du registre, moi, ça me tracasse beaucoup parce que c'est pas parce qu'il y a des difficultés dans une famille qu'elles ne seront à vie. Il y a des passages difficiles dans la vie personnelle de chacun. On n'a pas toujours envie que ce soit inscrit sur un registre. Hein, et dans tous les mondes, dans tous les niveaux, dans tous les milieux. Bon, donc, si on a besoin d'aide au niveau de la collectivité, la collectivité est là pour ça. Hein. Si on appelle ça une commune, c'est quoi une commune ? Une commune, ça veut dire un endroit où on vit en commun. Quand on vit en commun, on partage des plaisirs et on partage des peines et on partage des difficultés. Donc c'est cette façon d'être solidaire qui est importante.
Mais vous pourriez refuser peut-être d'écrire.
Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on vienne fausser cette solidarité.
Vous pourriez peut-être refuser d'écrire sur le registre, non ?
Oui. Mais alors, puisque c'est obligatoire, la loi rend obligatoire. Là, on parle que des villes de plus de 50 000 habitants, puisque effectivement, au départ, c'était prévu obligatoire un peu partout quand même. Hein. Là, bon, ça a été limité. Et c'est le Sénat d'ailleurs qui a apporté cette limitation. Enfin, plus de 50 000 habitants, c'est obligatoire. On le fait. Mais on le fait à sa sauce, à soi. Hein, c'est ce que vous me proposez. Imaginons qu'un jour, il y ait un fait, parce que c'est toujours après d'un fait divers que part une émotion collective. Hein. Imaginons qu'il y a un fait divers grave dans une commune, le procureur se saisisse de tout ça, et ils disent, voilà, montrez-moi le registre. Et ils diront, ah, mais enfin, c'est étrange. Toutes les informations qui me reviennent laissent entendre que ce jeune homme, enfin, ou cet enfant, ou cet adolescent, était connu de tout le monde, etc. Il n'y a rien. Donc vous n'avez pas fait votre travail, monsieur le maire. Vous n'avez pas fait votre travail.
Donc, de responsable, on devient coupable. Il n'y a pas loin, hein.
Nous arrivons au terme de cette émission Papa, Maman, le maire et moi. Merci aux différents intervenants qui ont accepté de répondre à mes questions. Production et réalisation, Anne Esclair.